Louange et remerciements au Seigneur pour sa présence que nous pouvons déjà ou que nous avons déjà ressenti, pour la précieuse parole que nous avons lue tous ensemble. Ça nous va tout simplement droit au cœur. Et nous suivons l'Esprit qui révèle la parole, qui nous parle. Oui, qui par chaque parole nous interpelle. Que nous le considérions dans Moïse, ou dans les prophètes, ou dans les psaumes, que ce soit dans l'Ancien ou le Nouveau Testament, l'Esprit de Dieu rend la parole vivante en nous et a toujours quelque chose à dire. La parole ne vieillit pas, elle est toujours nouvelle lorsqu'elle est révélée par le Saint-Esprit. Nous l'avons parfois dit, et on peut le trouver particulièrement dans les églises du plein d'Évangile. Il prie avec un cœur sincère pour que la parole de Dieu soit révélée fraîchement du trône. Mais cela a eu lieu. La parole de Dieu a été fraîchement révélée depuis le haut du trône. Depuis le trône. Mais Dieu cherche ensuite des hommes qui n'ont pas seulement prié pour qu'elle soit révélée, mais qui sont prêts à l'écouter une fois qu'elle a été révélée. Beaucoup ne sont peut-être même pas conscients que leur prière a déjà été exaucée, que Dieu a fait quelque chose de nouveau. Et ici, dans cette parole de Lévitique chapitre 26, nous avons lu, où il est dit, « Vous devez enlever ce qui est ancien pour faire de la place pour ce qui est nouveau. » C'est bien cela. C'est bien cela. Les produits de l'année précédente ont été distribués, ont déjà été mangés. Nous avons déjà vu et reconnu cela. Et Dieu a donné quelque chose de nouveau pour qu'il soit distribué au temps convenable. Oui, à cela, on n'a pas besoin de dire grand-chose, ni d'interpréter. Le Saint-Esprit le révèle à tous. Nous savons que lorsque le Nouveau Testament a commencé, beaucoup voulaient encore dire des choses anciennes. Mais Dieu avait ses serviteurs, ses hommes, qui distribuaient ce qu'il avait de nouveau à donner comme révélation de la parole et de l'Esprit. Dieu a toujours eu un reste qui était prêt à accueillir, à recevoir la chose nouvelle. Et nous pensons ici à tous les réveils passés. Dieu a toujours eu un reste parmi son peuple qui avait un désir profond de vivre ou d'expérimenter quelque chose de nouveau avec Dieu. Cette parole correspondait tout simplement à 100% avec ce que nous avons lu et entendu ce matin du prophète Ézéchiel au chapitre 36, au verset 26 et 27. Là, il est dit, « Et je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre poitrine le cœur de pierre et je vous donnerai en échange un cœur de chair. » Verset 27. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai de vous de telles personnes qui marchent selon mes statuts et qui observent mes instructions et les mettent en pratique. C'est précisément ce qui a eu lieu avec le peuple de Dieu jusqu'en ce temps. Il veut faire de nous de telles personnes qui marchent selon ses paroles, qui font ce qu'il a dit. Aucun homme ne peut y arriver lui-même. Qu'il puisse l'essayer 100 fois, il n'y arrivera pas. À moins que le Saint-Esprit n'ait pu créer quelque chose de nouveau, en sorte que notre volonté soit placée dans la volonté de Dieu et que nous aussi nous puissions dire, pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Et sa volonté sera faite comme sur la terre, comme au ciel. Le cœur d'un non-croyant est froid, il est dur, il est comme la pierre. Mais le cœur d'un croyant est sensible. Il accepte, il reçoit, il se réjouit de tout ce que Dieu fait, de tout ce qu'il dit, de tout ce qu'il manifeste par grâce au milieu de son peuple. Je ferai de vous de telles personnes qui marchent dans mes voies, selon Ézéchiel 36, 27. C'est déjà la grande question de savoir si nous avons reconnu les voies de Dieu dans ce temps. Lorsque Moïse a trouvé grâce devant Dieu, il n'a demandé une seule chose. Il a parlé à Dieu et lui a dit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, alors fais-moi connaître tes voies et je saurai par là que j'ai trouvé grâce à tes yeux. » Exode 33, verset 13. C'est de cela qu'il s'agit. Aujourd'hui, les hommes parlent de la grâce de Dieu et ne reconnaissent pas les voies de Dieu. Même Moïse, pour montrer qu'il avait comme signe qu'il avait trouvé grâce aux yeux de Dieu, il voulait connaître une chose, à savoir les voies de Dieu, que Dieu le Seigneur voulait suivre avec son peuple en son temps. Et en un clin d'œil, il a compris qu'ici s'accomplissait ce que Dieu le Seigneur avait dit à son serviteur et prophète Abraham en disant, pendant 400 ans, tes descendants habiteront dans un pays étranger, mais ensuite je les ferai sortir de main puissante. Genèse 15, verset 13. Moïse avait trouvé grâce aux yeux de Dieu et le Seigneur lui fit connaître ses voies. Et Moïse alla plus loin. Et il dit, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, alors tu dois partir avec nous, sinon je ne partirai pas du tout. » Exode 13, verset 15-16. Voyez-vous de quoi il s'agit? Pas seulement de parler de la grâce de Dieu et ensuite suivre ses propres voies. Pas seulement de parler de la grâce de Dieu et ne pas reconnaître de quoi il s'agit. Mais la grâce de Dieu englobe tout, tout. Par la grâce de Dieu, nos yeux sont ouverts et ouverts pour voir ce que Dieu fait maintenant. Amen. Par la grâce de Dieu, nous sommes renouvelés. Par la grâce de Dieu, nous sommes guidés et conduits. Et par la grâce de Dieu, nous pouvons reconnaître les voies du Seigneur en ce temps. Nous pouvons alors bien comprendre Moïse. Il ne voulait pas faire ou dire quelque chose dans l'incertitude, ou il ne voulait pas dire peut-être, mais si, ou tout ou rien. Mais, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, alors fais-moi connaître tes voies. Et voici que cela défilait comme un film devant ses yeux, et il pouvait voir ce que Dieu avait fait en ce temps-là, conformément à ses promesses. N'oublions jamais cela. Le peuple de Dieu doit reconnaître et croire la promesse que Dieu lui a faite afin qu'elle s'accomplisse au milieu de lui et que Dieu fasse ce qu'il veut et que nous soyons tous réellement bénis. Tout autre chose, c'est passer à côté de ce que Dieu fait réellement. Et nous savons que dans le pays, à tout endroit, il y a des choses à entendre et à voir. On entend « Ici est le Christ ». Mais la question est de savoir où est-il véritablement, à savoir là où l'on écoute volontiers et avec joie sa parole, où l'on n'est pas offusqué de ce qu'il fait, mais là où on se réjouit de tout cœur de ce qu'il s'est abaissé pour parler encore une fois à son peuple. Nous sommes pour cela reconnaissants de tout cœur. Lui-même a promis, je mettrai mon esprit dans vos cœurs. Et je ferai de vous de telles personnes qui marchent dans mes voies, selon Ézéchiel 36, 27. Nous savons, lorsque la première création a eu lieu, l'homme était bien là, mais il était mort. Et lorsque Dieu, le Seigneur, a soufflé en lui le souffle de vie, il s'est tenu debout sur ses pieds et il était une âme vivante. Aujourd'hui, il y a des gens et des assemblées qui sont spirituellement mortes. À moins que le Seigneur ne fasse entrer son esprit en nous. Qu'est-ce qui s'est passé lorsque le Seigneur Jésus est ressuscité? Il avait fait la promesse à ses disciples que le Saint-Esprit viendrait sur eux. Mais dès sa première rencontre avec eux, après sa résurrection, il a soufflé sur eux et leur a dit « Recevez le Saint-Esprit » selon Jean 20, 22. Il a soufflé sur eux comme lorsqu'Adam a reçu le souffle de vie pour exister. Il leur a ainsi donné son esprit pour qu'ils deviennent vivants et puissent désormais, à partir de là, servir le Seigneur. Oui, il a fait de nous de telles personnes capables de marcher dans ses voies. L'homme naturel n'accepte rien de l'Esprit de Dieu. C'est comme une folie pour lui. Cela le répugne. Il ne le veut pas. Mais l'Esprit de Dieu en nous l'accomplira. Il l'a déjà accompli jusqu'aujourd'hui. Et ce qu'il manque jusqu'à l'achèvement, il le manifestera en nous tous par grâce. Nous n'abandonnons pas, nous tenons ferme et persévérons jusqu'à la fin. Car celui qui persévérera jusqu'à la fin sera couronné selon Matthieu 24, 13. Maintenant, il s'agit de tout. Maintenant, oui, c'est maintenant que tout se joue. Nous ne pouvons plus regarder autour de nous, à droite, à gauche, ni en arrière, non. Nous ne regardons qu'à Jésus, le commencement et la fin de notre foi. Nous ne murmurons pas non plus comme le peuple d'Israël murmurait. Nous ne sommes pas mécontents. Nous savons que Dieu poursuit son chemin avec son peuple. Et si nous voulons nous dire la vérité les uns aux autres, nous devons dire que Dieu nous a fait connaître ses voies et que son bras nous a été manifesté en ce temps. Amen. Et je crois que pour cela, nous avons une raison particulière de remercier le Seigneur et de le servir de tout notre cœur et de marcher dans ses voies. Il y avait encore un autre passage biblique du Nouveau Testament en rapport avec ce que nous avons entendu ce matin. Il est dit là que l'Esprit souffle comme il veut. Et lorsque le Seigneur Jésus a parlé à Nicodème, il a aussi parlé du vent qui souffle. Et tu entends son sifflement et tu ne sais pas d'où il vient et où il va, selon Jean 3, verset 8. Mais il y a une chose que nous savons. Quand le vent souffle, il y a quelque chose qui s'est passé. En ces jours où la tempête traverse le pays, on remarque, on entend. Oui, tout ce qui se passe lorsqu'un tel vent souffle dans le pays. Et quand le vent de l'Esprit souffle dans le pays ou soufflera dans le pays, on entendra quelque chose. Alors l'un ou l'autre sera emporté ou sera saisi. On découvrira peut-être ceci ou cela. On ne sait pas. Le vent peut agir de différentes manières. Chez un autre, il ouvre le toit. Chez l'autre, il fait quelque chose. Vous savez ce que c'est. Partout, il se passe quelque chose de différent. Mais quand le vent est passé avec une telle puissance, de toute manière, on voit quand même les traces après. Il en est de même avec nous qui sommes devenus croyants. En ce temps, cet homme, Nicodème, a demandé comment cela devait-il arriver. Et le Seigneur lui dit, c'est comme le vent qui souffle. Tu entends son soufflement, mais tu ne sais pas d'où il vient, où il va. Jean 3, verset 8. Mais une chose est sûre, là où le vent de l'Esprit souffle, il doit se passer quelque chose. Et il s'est passé quelque chose. À la Pentecôte, c'était un vent impétueux venant du ciel. Et on entendait, on voyait, il s'était passé quelque chose parmi le peuple de Dieu. La même chose arrive ou se passe maintenant, en ce temps, avec nous. Et je me souviens de deux services divins. J'aimerais bien le vérifier s'il s'agit du même service. Lorsque Frère Branham prêchait, et alors qu'il priait, tout à coup, un tel grondement passa près de la plateforme et on entendit avec puissance. Et il a dit, le même Esprit de Dieu qui est descendu à la Pentecôte est descendu ici aujourd'hui et est venu sur toute l'assemblée. L'Esprit de Dieu agit encore de la même manière. Nous chantons en effet que l'Esprit de Dieu agisse encore une fois. Quand j'ai entendu ce cœur récemment en Inde, j'ai pensé, ça c'est la vérité. L'Esprit de Dieu agit encore une fois pour accomplir chaque parole partout. En tout lieu, l'Esprit de Dieu agit encore une fois. Puis j'ai pensé, à quoi cela nous sert-il si l'Esprit de Dieu agit encore une fois partout? s'il n'agit pas en nous. Alors directement, rapidement, nous avons ajouté un deuxième couplet au cantique qui dit « L'Esprit de Dieu agit maintenant en nous ». Amen. C'est le plus important. À quoi nous servirait-il que l'Esprit de Dieu agisse sur toute la terre et nous ne sommes pas impliqués dans cette action? Alors que Dieu nous fasse grâce, que personne n'endurcisse son cœur et que personne ne pense que nous ne savons pas ce dont nous parlons. Nous savons ce que nous disons. L'ancien devait être supprimé pour faire place à ce qui était nouveau. Et cela correspond à ce que dit le prophète de l'Ancien Testament, Ésaïe. Les prophéties précédentes se sont réalisées et j'annonce des choses nouvelles. Ésaïe 48, verset 5. Pourquoi? Dieu est un Dieu vivant. Il donne les instructions. Vous savez qu'au temps de Moïse, ce que le Seigneur avait promis à Abraham s'est réalisé. Et il fit connaître des choses nouvelles. Et cela se révéla au milieu de ceux qui croyaient en ce temps-là. Oui, qui croyaient en ce temps-là ce que Dieu faisait. Il est écrit qu'il y avait des ténèbres dans le pays d'Égypte. Si épaisse qu'on pouvait les saisir, mais à Gozem, là où le peuple de Dieu était rassemblé, il y avait la lumière du jour. Et le soleil brillait de toute sa force et de tout son éclat. Il en est de même maintenant. Les ténèbres couvrent la terre et obscurcissent les peuples. Mais sur le peuple de Dieu s'est levée la lumière éclatante et glorieuse. Pourquoi? Nous avons vu ce que Dieu fait en ce moment. Et il est dit par rapport à la première venue de Christ que le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu la grande lumière. Matthieu 4, verset 16. Pourquoi? Jésus est la lumière du monde. Il a envoyé sa parole pour faire sortir tous ceux qui sont dans les ténèbres et les éclairer. Oui, le prophète l'a résumé avec les paroles suivantes. Je ferai de vous des personnes qui marchent dans mes voies. Ézéchiel 36, verset 27. Pour cela, on n'a pas besoin d'explication ou d'interprétation. De personnes, de telles personnes qui marchent dans mes voies. Si nous avons trouvé grâce devant Dieu, nous pouvons prier. Seigneur, s'il en est ainsi, alors fais-moi connaître tes voies. Montre-moi ta voie, afin que je puisse y marcher. C'est ainsi. Dieu nous a montré sa voie avec son peuple dans ce temps. Amen. Et sur ce chemin, et c'est sur ce chemin qui mène à la gloire, que nous marcherons jusqu'à ce que nous passions de la foi à la vue. Vous savez, nous sommes si reconnaissants pour ce que Dieu a fait dans ce temps, particulièrement pour l'envoi de son serviteur et prophète. Mais une chose m'a particulièrement frappé les dernières semaines aux États-Unis. On ne peut pas toujours présenter un homme, même si Dieu l'a utilisé d'une manière si puissante. On devrait se concentrer sur le sens et le but pour lequel un tel homme de Dieu a été envoyé. J'ai utilisé cet exemple. Dans le monde anglo-saxon en particulier, on a la notion de la présentation. On ne connaît pas un homme à moins qu'il n'ait été présenté quelquefois avant qu'on ne puisse faire vraiment sa connaissance. Et j'ai dû dire qu'il ne servait à personne de se présenter continuellement et de dire « ça c'est Frère Franck » et encore, une seule fois suffit. On présente une personne et on s'attend ensuite à ce que tous aient compris ce qui a été dit. On ne peut pas simplement présenter, on doit venir au point qu'un homme de Dieu a été envoyé pour ramener les cœurs des enfants de Dieu à la foi originale de nos pères et pour enlever tout le reste de la table afin que la table soit à nouveau dressée avec la parole révélée par Dieu pour ce temps. Et alors on n'a pas toujours besoin de dire prophète derrière et devant, mais plutôt ce que Dieu a dit et fait dans sa sainte parole. Et Dieu fait de nous de telles personnes qui marchent ensuite dans ses voies. C'est une grande différence. Que l'on dise sans cesse, avez-vous déjà entendu, n'est-ce pas? Cela aurait été la même chose qu'autrefois quand Jean apparut. Et si les disciples n'avaient pas compris que l'histoire du salut avait continué, et s'ils avaient continué à dire, écoutez, nous voulons vous parler aujourd'hui de Jean-Baptiste. Leur tâche n'était pas de parler de Jean-Baptiste. Leur tâche consistait à reconnaître le chemin de Dieu et d'y marcher. Amen. Dieu avait tous ses serviteurs, mais il n'est pas resté sur place. Mais il a continué plus loin. Jean avait son ministère et ceux qui vivaient en ce temps le suivaient et se réjouissaient. Et il pouvait dire, l'ami de l'époux entend le cri de joie de l'épouse et dit, cette joie qui est la mienne est maintenant parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Jean 3, verset 29. Et même lorsque certains des disciples de Jean n'avaient pas encore compris que la parole s'était faite chair, alors il a dû les renvoyer en leur disant, allez demander-lui vous-même si c'est lui ou non, ou si nous devons en attendre un autre. Il y a des gens qui disent que Jean a douté. Si quelqu'un trouvait dans la Bible que Jean a douté, qu'il puisse me le lire. Jean était un homme rempli du Saint-Esprit dès le ventre de sa mère. Il savait qui était Christ et il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean 1, verset 29. Mais il y avait encore quelques-uns qui s'accrochaient à lui, qui n'avaient pas encore compris que son heure était venue. Oui, que l'heure du Seigneur Jésus était venue. Et puis, quand ils sont allés, ils ont entendu et il est dit qu'à partir de ce moment-là, ils ont suivi le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur veut faire de nous de telles personnes qui reconnaissent le chemin de Dieu et qui marchent, qui ne s'arrêtent pas et tournent en rond, mais qui ont compris. C'est pourquoi le prophète a été envoyé en ce temps, c'est-à-dire pour ramener la parole. Et maintenant, nous expérimentons quelque chose que nous ne pouvons pas ignorer. Nous faisons maintenant l'expérience de la force et de la puissance de la parole de Dieu révélée en ce temps. La parole ne peut pas retourner à vide. Elle doit accomplir ce pourquoi le Seigneur l'a envoyé selon Ésaïe 55, 11. Non pas que nous faisons quoi que ce soit. Je sais que l'homme est mal compris dans ce qu'il dit par celui qui veut mal le comprendre. Mais je ne pense pas que de telles personnes soient au milieu de nous. Nous voulons bien comprendre Dieu quand il parle et quand il agit et bien placer les choses divines. Les disciples de l'époque, ils ne pouvaient pas s'arrêter au ministère de Jean. Puis le Seigneur Jésus est venu avec son ministère et à la Pentecôte et le Saint-Esprit a commencé à agir de manière puissante. Ils ne pouvaient pas revenir aux époques en arrière. Non, ils ne pouvaient qu'aller en avant, car l'Esprit de Dieu les poussait à aller en avant. Et je vous dis, depuis les jours de la Réformation, le Saint-Esprit a poussé en avant avec puissance. Il y a eu réveil sur réveil. Et maintenant, il pousse avec puissance vers l'accomplissement, vers l'achèvement, afin que tous ceux qui sont prêts à marcher dans la voie de Dieu ne regardent pas en arrière, mais comprennent que le Seigneur Dieu a ce que le Seigneur Dieu a fait par grâce. En avant, dans la foi au Seigneur, l'heure est venue d'introduire l'équilibre dans la prédication. L'équilibre divin fait partie de la proclamation de la parole de Dieu. Amen. Il y a eu un temps où nous avons mis en avant de manière particulière ce que Dieu a fait. Maintenant, c'est le temps où nous voulons nous concentrer sur ce que Dieu fera encore. Et cela n'est plus très loin. Le Seigneur Dieu se manifestera puissamment parmi son peuple, parmi ceux qui ont compris à quoi sert le ministère d'un prophète et ce qui devait être manifesté par ce ministère en ce temps. Notre objectif, notre attention sont uniquement tournées vers Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. C'est lui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Et nous le savons, selon la révélation d'Apocalypse. Et nous nous réjouissons de prendre part à ce que Dieu fait. Dieu veut faire de nous de telles personnes qui marchent dans ses voies, qui ne regardent pas en arrière, mais qui vont de l'avant pour atteindre le but. Comme quelqu'un l'a prié, nous croyons que le Seigneur Jésus reviendra très bientôt. Mais nous ne fixons pas de temps, pas d'années. Mais nous voulons simplement trouver grâce devant le Dieu Tout-Puissant et que nous soyons préparés comme il lui plaît. Et quand il reviendra, comme le dit l'indescriptible dans un des évangiles, que ce soit le matin ou la nuit ou le soir, que le Seigneur vienne, qu'il nous trouve éveillés et prêts à entrer avec lui dans la gloire céleste. Je vous donnerai un cœur nouveau et un esprit nouveau. Amen. Ézéchiel 36, 26. C'est ce que le Seigneur a fait par grâce. Et seul celui qui est vraiment renouvelé aura fait place pour la chose nouvelle que Dieu a faite. Sinon, nous reviendrons toujours à l'ancien. Je suis tout à fait honnête avec vous tous. Lorsque nous avons d'abord appris à connaître le ministère de Frère Branham et que nous avons entendu parler des vérités bibliques et aussi du baptême biblique, alors j'ai toujours voulu revenir à l'ancien. Je me suis dit, Seigneur, tu m'as béni, tu as été avec moi. Alors, le baptême doit avoir été juste. Même s'il n'était pas juste, alors je dois quand même avoir été juste, même s'il n'était pas juste. Vous voyez ce que je veux dire, n'est-ce pas? J'ai toujours voulu revenir à l'ancien et pour me servir d'excuse. Mais le jour est venu où j'ai dû comprendre qu'on ne peut pas s'accrocher à l'ancien et recevoir la chose nouvelle. Amen. Il faut lâcher pour pouvoir saisir l'ancien, l'autre, l'un pour pouvoir saisir l'autre. La plupart des personnes ont les deux mains pleines et luttent contre l'ancien. Excusez-moi, vous voyez ce que je veux dire. Et ensuite, ils veulent recevoir la chose nouvelle. Ils ne peuvent rien recevoir de nouveau, à moins c'est qu'ils n'aient laissé tomber l'ancien. Ils auront ainsi les deux mains libres pour saisir la chose nouvelle. Il en est ainsi dans ce temps. Dieu a fait la grâce de venir à lui les mains vides et de dire, Seigneur, notre Dieu, tu as fait emmagasiner pour ce temps une nourriture nouvelle et vivante. Ta parole glorieuse est révélée pour ce temps. Et nous voulons le recevoir de tout notre cœur et de toute notre âme. Il y a beaucoup de choses comme le thème de la divinité et beaucoup de vérités bibliques. On a d'abord toujours voulu revenir à l'ancien en disant, oui, tu as cru cela pendant tant d'années. Tu l'as prêché toi-même et maintenant, qu'en est-il? On y a cru soi-même et l'on a prêché soi-même. À quoi sert tout cela si l'on n'a pas été éclairé par le Saint-Esprit? C'est pourquoi il est nécessaire que tous ceux qui veulent aller de l'avant avec Dieu mettent un terme à tout ce qui est ancien et à tout ce qui leur est propre et disent, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je veux te servir de tout mon cœur, de tout mon âme. Vous savez, j'ai déjà baptisé je ne sais combien de personnes au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je n'étais pas encore moi-même baptisé de la sorte. On est parfois un peu abattu. On ne le remarque même pas. Et j'étais 100% convaincu que c'était uniquement biblique. Tout à coup, je me dis, mon Dieu, qu'est-ce que tu as fait? Tu prêches à tous les autres qu'ils doivent être baptisés au nom du Seigneur. Alors ensuite, j'ai très vite trouvé le chemin vers l'eau. Oui, j'ai trouvé le chemin vers l'eau. Dieu doit d'abord nous aider tous à reconnaître que nous devons laisser ce qui est ancien. Nous devons faire de la place à des choses nouvelles. Tous compris? L'avons-nous tous compris? Amen. De la place pour la chose nouvelle. L'ancien, oui, il est même écrit de l'ancienne alliance que le Seigneur a fait une nouvelle alliance. Et quand la chose nouvelle vient, l'ancien est passé. Elle a rempli son devoir. Le sens et le but ont déjà été. Et nous voyons alors que le Seigneur crée quelque chose de nouveau par grâce. C'est ce qui s'est passé à chaque réveil. Dieu a fait quelque chose de nouveau et tous ceux qui étaient prêts à le recevoir ont été nouvellement bénis et ont été conduits plus profondément dans la parole et se sont réjouis dans le Seigneur leur Dieu. C'est ce que nous avons dû faire, nous aussi dans cette génération. Nous, comme nous l'avons lu dans Lévitique ici, il fallait faire de la place pour quelque chose de nouvel. Louange et remerciement au Seigneur. Que Dieu nous bénisse en cette heure de cet après-midi. Peut-être devrais-je encore dire, il m'est venu à l'esprit que nous avons aujourd'hui une possibilité de baptême. Nous avons déjà eu un baptême hier en ce lieu. Mais peut-être il y a encore des gens ici aujourd'hui qui ne savent pas s'ils pourront être ici une deuxième fois très bientôt. Peut-être que Dieu veut que vous fassiez preuve aujourd'hui d'une obéissance totale en action dans ce lieu. Il faut pouvoir tirer un trait sur tout ce qui est ancien pour pouvoir recommencer à zéro. Avec Dieu, tout recommence. On ne peut pas emporter avec soi le vieux levain. Le Seigneur dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et Paul écrit aux Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 5, un peu de levain et toute la pâte est gâtée. Ne gâchons pas une nouvelle fois la pâte sucrée et de l'honnêteté et de la vérité. S'il n'y a parmi nous des personnes qui n'ont pas encore été baptisées bibliquement au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous en avez la possibilité aujourd'hui. Et il ne devrait pas être difficile pour une personne de se classer, de le classer, de le voir bibliquement. Quand le Seigneur Jésus dit, baptisez-les dans, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, selon Matthieu 28, 19, la première question est tous de même de savoir quel est ce nom. Est-ce vrai ou non? Le Père, Père, je le suis. Vous le savez parce que j'ai des enfants. Je suis fils parce que j'ai un père. Je suis un mari parce que je suis marié. Mais ce n'est pas mon nom. Le nom n'est pas un titre et pas une désignation. Le nom est une chose. Dieu est Père dans le ciel. Il s'est révélé comme Père sur la terre et dans le Fils et en nous par son Saint-Esprit. Mais, ce même Dieu qui s'est révélé comme Père, Fils et Saint-Esprit s'est aussi révélé dans un nom dans le Nouveau Testament. Et ce nom est au-dessus de tout nom et il n'y a pas de salut en dehors de ce nom, du nom de Jésus-Christ selon Actes 4, verset 12. Et c'est pourquoi tous les hommes ont été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ, juifs, grecs, païens, tous ont été baptisés dans ce nom, étant conscient que c'est le nom dans lequel Dieu s'est révélé comme Père, Fils et Saint-Esprit. C'est très simple. Mais il faut pouvoir faire place, ôter ce qui est ancien avant de pouvoir commencer quelque chose de nouveau. Et c'est pour cela que Dieu doit nous accorder cette grâce. Sinon, nous ne reconnaissons pas le chemin de Dieu avec l'Église en ce temps. Il y a beaucoup de personnes qui disent que ce qui était bon pour nos arrière-grands-pères doit être bon pour nous. Ce n'est pas nécessairement le cas. Maintenant, nous vivons dans les derniers temps. Toutes choses doivent être ordonnées bibliquement. La fin doit être semblable au commencement. Tous les enseignements étrangers doivent être mis dehors. Déjà, dans le premier âge de l'Église, l'Église d'Éphèse, il est dit, tu les as éprouvés, tu as éprouvé ceux qui se disaient apôtres et qui ne le sont pas. Et tu les as trouvés menteurs selon Apocalypse 2, verset 2. Pourquoi? Oui, ces hommes sont venus et ont dit, nous aussi, nous sommes des apôtres, n'est-ce pas? Alors, ils ont écouté une fois brièvement et ce n'était pas vrai ce qu'ils disaient. Ce n'était pas vrai. Et quoi? Ils les ont dit, retirez-vous, vous êtes de faux apôtres, vous n'avez que le masque des apôtres. Vous n'êtes pas des envoyés par le Seigneur, sinon vous prêcheriez ce que les apôtres du Seigneur ont prêché. C'est pourquoi ils ont tous ensuite, tout de suite su. Si nous n'avons pas besoin d'écouter, ils ont tout de suite su. Ici, nous n'avons pas besoin d'écouter plus longtemps. Ils leur ont arraché le masque et ont dit, allez donc votre chemin. Vous ne pouvez pas rester ici. À l'époque, ils voulaient encore entendre les paroles pures et saintes de Dieu. La mesure, le critère est la parole de Dieu seul. Il ne peut pas en être autrement. C'est la mesure, c'est à cela que tout est examiné. Et tout homme qui est de Dieu doit proclamer ce qui a été proclamé dans la Bible. Nous devons baptiser comme les apôtres ont baptisé, n'est-ce pas? Nous n'avons pas autre chose. Oui, nous n'avons pas autre chose. Ou Dieu fera-t-il quelque chose d'autre avec nous? Non. Retour à la parole. Retour au modèle des Saintes Écritures. Il nous fera toutes ces choses. Oui, en chacun de nous. Il fera toutes ces choses en chacun de nous de la bonne manière. Toutes les choses que nous faisons doivent être en accord avec la parole de Dieu. Et alors le Seigneur nous bénira, nous fera connaître et nous fera distribuer les choses nouvelles par grâce. Amen.